Seigneur Jésus, sois béni pour cette journée nouvelle, pour ce beau dimanche. Je te remercie, mon Dieu, pour ces chants, pour ta parole qui va être annoncée et pour tout ce que tu nous donnes dans nos cœurs afin que nous puissions nous parfaire pour te glorifier, pour te plaire. Merci, Seigneur Jésus. Je te prie de soutenir notre sœur Natalia qui a perdu son papa. Je te demande, Seigneur, de la bénir, de l'aider. Merci, mon Dieu, de soutenir toute cette famille. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Eh bien, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 10 ce matin, s'il vous plaît. C'est un verset que nous connaissons tous. Jean chapitre 10 et verset 10. C'est Jésus qui dit, « Le voleur vient seulement pour voler, pour dérober et pour faire périr. Moi, je suis venu pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante. » Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Alors, il nous dit qu'il est venu pour nous donner la vie, mais on n'est pas déjà vivant? Les gens qui sont nés et qui ont vécu avant Jésus, avant que Jésus vienne pour donner la vie, n'étaient-ils pas déjà vivants? De quelle vie Jésus nous parle-t-il ici? En fait, quand on lit les évangiles attentivement, on s'aperçoit que Jésus parle tout le temps de la vie. Tout le temps, il parle de la vie. Et c'est parce qu'il ne parle que de la vie que nous devons nous assurer de bien comprendre ce qu'il est en train de nous dire là et vraiment nous poser des véritables questions au sujet de « mais qu'est-ce que c'est la vie ? Qu'est-ce que c'est la vie ?» Les mortels, qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce que nous sommes tous des mortels, mais vous avez mortels et mortels. Comme vous avez pécheurs et pécheurs, vous avez des pécheurs pardonnés, vous avez des pécheurs qui ne le sont pas encore. Les mortels, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le pouvoir, ils cherchent l'argent, ils cherchent le savoir, ils cherchent l'amour, ils cherchent toutes sortes de choses. Bonjour Igor. Eh bien non, c'est la vie avant tout que nous devons chercher. La vie. Certains me diront, mais à quoi bon chercher ce que nous avons déjà? Est-ce que ce n'est pas mieux de chercher ce qu'on n'a pas? Alors écoutez bien ça. Vous êtes vivant. C'est vrai. La vie est un don de Dieu, mais la vie n'est pas la même pour tous les êtres, pour tout ce qui existe. Il y a des degrés. Il y a des degrés. Vous avez la vie végétale, vous avez la vie minérale même. Vous avez la vie animale, puis vous avez la vie des humains, puis vous avez la vie des anges, la hiérarchie des anges. En fait, tout ce qui existe est vivant. Alors, être vivant ne suffit pas. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Quelle vie vivez-vous? C'est ça qui est important de comprendre. Quand je regarde superficiellement les êtres humains, en vitesse comme ça, je pense, ben oui, voilà, ils ont une vie humaine. Mais si on regarde de plus près, si on regarde la vie intérieure des gens, la vie des humains, elle peut prendre toutes sortes de d'aspects. Et certains ont une vie qui a un aspect de pierre. Ils ont des cœurs de pierre. D'autres, c'est un aspect d'animal. Vous avez toutes sortes d'animaux. Vous avez le paon qui est orgueilleux. Vous avez le serpent qui est rusé. Vous avez des animaux féroces. Vous avez des animaux serviles. Vous avez toutes sortes d'animaux. Et puis, vous avez des gens qui ont une vie avec un aspect d'ange. On voit que ce sont des envoyés de Dieu. Il y a quelque chose de merveilleux dans leur vie. La vie que Jésus est venu apporter, c'est la vie divine. Il est venu apporter la vie divine dans un monde qui était perdu, sans sauveur. On ne pouvait être sauvé que par le moyen de la loi, en observant la loi, en faisant le bien et en offrant des sacrifices pour être pardonné des péchés qu'on avait faits. Et puis Jésus est venu, il a donné sa vie pour que nous puissions l'avoir en nous. Et la source De cette vie, elle est en haut, mes frères et sœurs. La vie divine, c'est un courant qui jaillit pur et limpide, mais qui jaillit d'en haut. Elle vient de Dieu. Alors, on pourrait lire Jean 4, ça serait intéressant de lire Jean 4, 10, 13 à ce sujet. Il parle avec une femme au bord d'un puits, et puis il lui dit, si tu savais quel don de Dieu veut, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais fait cette demande et il t'aurait donné l'eau de la vie ou l'eau de la source. Dans cette version, c'est l'eau de la source. Une eau qui est jaillissante par rapport à l'eau qu'il y avait dans le puits qui croupissait là, qui était morte. Alors la bonne femme dit, mais Seigneur, réplique, elle dit, mais tu n'as même pas un seau pour puiser. Et tu sais, le puits est profond. Où est-ce que tu prendrais donc ton eau de source? Tu vas te prétendre plus fort que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, dont il a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Et Jésus lui dit, celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà, la vie éternelle, la vie, l'eau. La vie d'un disciple de Jésus-Christ est une vie qui est différente de la vie des autres. Elle est différente parce que la source originelle, elle est en haut. Et que l'eau de notre vie coule non pas vers le bas, mais elle coule vers le haut. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. L'eau, elle va toujours vers le bas, mais pas la nôtre, pas notre eau. Elle jaillit jusque dans la vie éternelle. Nous la recevons d'en haut et nous remontons en haut. Remonter en haut. La vie des humains sans Dieu, elle coule du haut vers le bas. C'est-à-dire quand ils naissent purs et puis voilà, bon ben, c'est un cadeau de Dieu. Ça vient du sommet, leur vie est un cadeau de Dieu. Mais elle descend jusqu'à l'embouchure d'un fleuve pour aller se jeter dans un gouffre et puis elle parcourt un long trajet tout en ramassant toutes sortes de saletés et quand ça arrive en bas, ben c'est vraiment pas terrible, terrible. La vie des humains, elle est d'origine divine, mais elle coule vers le bas naturellement. En ramassant plein de produits, même toxiques. Quand vous voyez l'eau qui coule des montagnes, vous la voyez claire, claire comme la vie d'un bébé. On est allé dans les Grisons avec les enfants l'année passée, on a vu des fleuves, des rivières de montagne. Vous vous rappelez comment l'eau était propre, on pouvait la boire, il n'y avait pas de problème, hein, les gamins. C'est vrai. Mais qui aurait l'idée de boire l'eau de la Seine? Yark. Cette eau, elle est si sale qu'elle transporte même la mort. Pourtant, c'est toujours le même courant d'eau. C'est toujours de l'eau. Mais ça n'est plus l'eau pure qui jaillissait d'en haut, qui a jailli d'en haut du sommet. Vous voyez, pure ou polluée, l'eau, c'est toujours de l'eau. Et la vie, c'est la même chose. La vie, c'est toujours la vie. Alors, venez pas me dire, mais à quoi bon chercher la vie? On l'a déjà. Oui, mais elle est dans quel état? Rien n'est plus vivifiant que l'eau pure, alors que l'eau polluée peut être un poison. La vie, c'est un fleuve, paraît-il tranquille. La vie est un fleuve et rien ni personne ne peut sortir de ce fleuve, de la vie. Personne ne peut sortir de ça. Même après la mort, on vit encore. Mais pour bénéficier des éléments qui nous purifient, des éléments qui vont nous renforcer, qui vont nous éclairer, pour bénéficier de tout cela, nous avons besoin de nous rapprocher de la source, c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire du sommet. Un petit chant qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours ». Nous devons être de l'eau qui coule dans le sens inverse de la normale. On n'est pas comme les autres. Un chrétien qui veut être comme les autres, il y en a qui ont essayé, hein. elles ont eu des problèmes. Vous me direz, c'est beaucoup plus rapide de descendre que de monter, mais c'est pas le bon chemin. Le bon chemin avec Jésus, c'est d'aller vers le haut. Quand Jésus disait « Je suis venu pour qu'ils aient la vie », il voulait dire, il voulait que nous prenions conscience que la vie, c'est ce qui doit avoir le plus de valeur à nos yeux, c'est ce que nous devons étudier le plus, que nous devons, c'est ce à quoi nous devons accorder le plus d'importance, c'est ce qu'il nous faut approfondir, la vie, qu'est-ce que la vie ? Les mortels ont reçu la vie et ils puisent en elle pour pouvoir dépenser leur vie, pour satisfaire toutes sortes de choses, leurs désirs, leurs ambitions, leurs besoins, en croyant que c'est ainsi qu'ils vont s'épanouir, alors ils dépensent leur vie. Et dans la réalité, ils s'affaiblissent, ils s'appauvrissent. Dieu, qui leur avait donné la vie, la sienne, parce qu'il n'y a pas d'autre vie en dehors de la vie de Dieu, pour qu'ils soient forts, pour qu'ils soient beaux, pour qu'ils soient puissants, pour qu'ils soient lumineux, pour qu'ils soient dans une plénitude, eh bien Dieu ne voit maintenant sur la terre que des pauvres êtres chétifs, ternes, rabougris, et ce fleuve terne, malheureux et rabougri, en plus, lui tourne le dos et coule de plus en plus vers le bas en ramassant de plus en plus de saleté en disant « S'il y avait un Dieu, la vie ne serait pas comme ça. » Bande d'imbéciles. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne croit pas en Dieu, c'est un insensé. Seuls les insensés disent « Il n'y a pas de Dieu. » Voilà, c'est tout. Puis venez pas me dire « Je vous insulte. » C'est pas moi qui vous insulte, c'est Dieu qui vous dit la vérité. Mes frères et sœurs, la seule science qui vaut la peine d'être étudiée, c'est la science de la vie. Et Jésus est venu pour cela. Il a envoyé, et il continue d'envoyer ses serviteurs pour cela, pas pour pondre des doctrines, pas pour dire c'est ma doctrine qui est meilleure que la tienne. Ça, c'est encore la mort. Bien sûr qu'il y a des doctrines, mais très souvent, les doctrines servent à aux religieux à s'entretuer. Si vous ne cherchez pas la source de la vie, tous les autres sujets que vous allez aborder, si religieux soient-ils, toutes les activités que vous allez entreprendre ne vous apporteront rien si vous n'avez pas compris la réalité essentielle, c'est-à-dire la vie. Au lieu de vous servir de votre vie pour satisfaire vos désirs, vos ambitions, vos caprices même, apprenez au contraire, mes frères et sœurs, à considérer la vie comme le but, et utilisez toutes vos facultés pour renforcer votre vie, pour éclairer votre vie, pour purifier votre vie. Vous savez, il y a des ambitieux. Moi, je connaissais un homme, il est décédé maintenant. C'était un prédicateur, il prêchait très bien à Paris, mais je l'ai vu ailleurs aussi. Et c'est un excellent prédicateur. Il avait des dons surnaturels extraordinaires de guérison, de miracles, de discernement des esprits. C'était fantastique. Mais il tournait le dos à la source. Il aimait l'argent, il aimait les femmes. Et je connais bien ses neveux, qui sont des inconvertis. Et eh ben, ce prédicateur, il fréquentait les mêmes boîtes de nuit qu'eux à Pigalle. Il a même, ses neveux m'ont dit, mais il y a des photos de lui à Pigalle dans toutes les boîtes importantes, avec les pin-up et compagnie. Et pourtant, il prêchait l'évangile, il y avait des guérisons et tout ça. Et c'était son ambition, il aimait prêcher. Et quand les pasteurs lui faisaient des remontrances, il disait, mais surtout, ne m'empêchez pas de prêcher, j'aime ça, j'aime prêcher, j'aime. Oui, ça le faisait mousser, il était la star, il était la vedette, il avait son troupeau, il faisait sa vedette. Son ambition, c'était de prêcher, mais il ne vivait pas ce qu'il prêchait, la pureté de l'amour fraternel, l'honnêteté, la discipline chrétienne, rien du tout de tout ça. Paraît-il qu'à la fin de sa vie, ça a changé. Je veux le croire, j'espère que c'est vrai. Mais en attendant, quelle misère ! Quelle misère ! si vous ne vous convertissez pas, si vous ne cessez pas de couler vers le bas, si vous ne remontez pas à la source, vous êtes perdu, sans vie, il vous reste rien. Sans vie, il vous reste rien. Sans une relation personnelle privée avec Dieu, il vous reste rien. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir d'ambition. Je dis que sans la vie, sans la science de la vie, les choses d'ici-bas ne trouvent pas vraiment leur place. Même un prédicateur, même un excellent prédicateur, s'il n'est pas vivant de la vie de Dieu, Dieu le dit, il fait des dons aux hommes, il ne se repent pas de ses dons ni de ses appels. Si Dieu a fait des dons à un homme, à une femme, voilà. Il ne va pas s'en repentir, il laisse faire. Mais ça ne lui sert à rien du tout. Tout ce qu'il va faire ici-bas, ça ne trouvera pas véritablement sa place devant Dieu. Et alors, plus rien n'a véritablement de sens, sinon la gloriole, le prestige, ou ce que vous voulez. C'est la vie qui doit alimenter l'intellect, le cœur et la volonté. Si ce n'est pas la vie qui alimente le cœur, l'intellect et la volonté, alors tout cela va s'épuiser. Quand c'est la vie divine qui est en vous, vous entretenez votre intellect, votre intelligence comprend, votre cœur aime, votre cœur se réjouit, votre volonté se renforce, et vous vous mettez à créer des choses qui glorifient Dieu, qui aident les autres, et qui vous donnent une satisfaction qui fait que vous êtes en harmonie, mais sans la vie divine, tout devient moche. Tout devient moche. Je suis désolé. Et maintenant, on est dans l'apostasie. Plus c'est moche, plus on dit que c'est beau. Plus c'est tordu, plus on dit que c'est bien. C'est l'apostasie. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la science de la vie divine, c'est la clé de toute réalisation. Si vous ne connaissez pas ce qu'est la vie, tout ce que vous réalisez, ça n'a pas de valeur. Rien, mais rien. Alors il faut retourner à la source, il faut retourner au sommet. N'ayez pas peur de ne pas vivre comme les autres. N'ayez pas peur d'être différent des autres. Jésus donne la vie divine, mais il dit aussi qu'il y a un voleur. Et le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire, tuer. Mais Jésus dit, moi je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. Pourquoi est-ce que Jésus s'oppose-t-il? Pourquoi est-ce qu'il oppose ses intentions avec les intentions de ce voleur? Eh bien parce que le voleur il vient pour prendre alors que Jésus lui vient pour donner. C'est simple à comprendre. Vous avez une vie, le diable vient vous la voler, en échange de quelques trucs, de quelques machins. Alors on se dit, mais alors le voleur, oui voilà, c'est facile, c'est le diable. Ben pas seulement, c'est facile de dire que c'est le diable, c'est pas seulement le diable, c'est pas faux de dire que c'est le diable, mais il y a aussi d'autres voleurs. Le diable, lui, il est en dehors de vous, mais en vous, il y a des voleurs. Ah bon, Michel, il y a des voleurs en moi? Ben bien sûr. Jacques 1,14, lisons ça. Voilà ce qui se passe. Lorsque nous sommes tentés, c'est pas le diable, hein. Quand on est tenté, c'est pas forcément le diable. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, donnera naissance au péché. Celui-ci donnera à son tour, une fois parvenu à son plein développement, eh bien, il apportera la mort. Alors, ne vous laissez pas égarer sur ce point, mes chers frères. Alors, bien sûr, le diable, c'est toujours la faute du diable. Mais dis donc, la Bible, elle dit que c'est vous, hein, c'est en vous. Le diable, il n'est pas là partout, il n'est pas là tout le temps. Même ces démons ne sont pas là tout le temps, ils ont d'autres choses à faire que de s'occuper de votre pauvre petite vie minable et de la mienne. Il y a suffisamment en nous pour pouvoir nous détourner de Dieu, nous détourner de la vie, nous détourner de la source. Il y a suffisamment, croyez-moi. Et croyez ce que la Bible dit. C'est vos propres convoitises. C'est pas... Le diable n'est pas obligé de vous tenter. Hein. Arrêtez de toujours l'accuser. Accusez-vous vous-même. Reconnaissez que vous avez tort. Vous. Alors, il y a des voleurs, ces voleurs, le voleur principal qui est en nous, ce sont nos convoitises, qui nous forcent à sacrifier ce que nous avons de plus précieux. Or, ce que nous avons de plus précieux, ce sont les richesses de notre vie, de notre esprit. L'esprit, c'est la vie, c'est comme l'huile pour un moteur, c'est comme l'huile pour une lampe, c'est comme l'eau pour un moulin, c'est comme l'essence pour une voiture, c'est comme le courant électrique pour l'usine, c'est comme le sang pour votre organisme, la vie, votre esprit. Vous pouvez avoir une très belle voiture, s'il n'y a pas d'essence dedans, bon, elle est toujours très belle, mais elle ne sert à rien du tout. Oui, les gens peuvent venir et dire « Ah, t'as une belle voiture, oui. » Mais elle ne roule pas. « Ah, qu'est-ce que t'as une belle lampe à huile, c'est génial. » Oui, il n'y a pas d'huile dedans, donc il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et ben voilà, vous pouvez avoir une belle apparence, vous pouvez avoir donner l'impression que vous êtes riche, mais vous êtes pauvre si vous n'avez pas la vie. C'est la vie qui permet que tout fonctionne. Et pourtant, c'est la chose la plus méprisée, la plus ignorée, celle dont on ne veut pas s'occuper. Les mortels, ils la sacrifient tous les jours à leurs plaisirs, à leurs ambitions, à leurs comptes en banque, à tout, n'importe quoi. Bien sûr que si un jour, il se trouve, ou vous vous trouvez dans une ruelle sombre, puis qu'il y a un brigand qui arrive et qui vous met un couteau sur la gorge et qui vous dit la bourse ou la vie, vous n'allez pas lui donner votre vie, vous allez lui donner votre bourse. Mais généralement, on ne pense pas comme ça, hein. Généralement, la vie, on la gâche, on la vilit. C'est ça la vie de ce monde. C'est comme ça dans le monde. Il faut être mis au pied du mur pour comprendre tout à coup la valeur de la vie. Voulez-vous devenir quelqu'un de plus vivant? Voulez-vous devenir quelqu'un qui a une vie plus intense? Alors prenez conscience de toute la vie qui existe autour de vous. Autour de vous. Partout dans la nature. Regardez là. Je me rappelle, j'avais prêché là-dessus. Marchez lentement, regardez, observez. Et les autres là en face, ils se sont moqués de moi dans leur prédication en disant « Oh Michel, maintenant il nous parle de regarder la nature, gna 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 gna. » Pauvres gens. Prenez le temps de regarder les belles choses qui sont autour de vous. Comment la nature vit, comment ça vit. Soyez en contact avec la vie, soyez en contact avec les belles choses qui sont dans la nature. Prenez contact aussi avec la vie qui est dans les autres, dans les mortels. Vous regardez, puis vous dites, ah ben ça, c'est une vie qui m'intéresse. Ce type là, par contre, sa vie ne m'intéresse pas du tout. Il y a des gens, voilà, non, surtout pas. Pitié, au secours, à fuir. Vous voyez, regardez autour de vous. Prenez des exemples. Devenir vivant, c'est toujours arriver à s'émerveiller, c'est toujours regarder les êtres et les choses comme si c'était la première fois. Laissez-vous surprendre. Mes frères et sœurs, puisque la vie, c'est le lien le plus fort qui vous relie à Dieu, vous savez que la Bible nous dit que c'est un fil d'argent qui nous relie, qui relie notre corps à Dieu. Tous, on a ce fil d'argent. C'est écrit dans la Bible. Et maintenant, même les scientifiques en parlent. Tous ces hommes et ces femmes, des milliers, des dizaines de milliers dans les hôpitaux vivent, c'est ce qu'on appelle, comment déjà on appelle ça, vous savez, les gens qui meurent et puis qui reviennent après, comment on appelle ça? Les NRD, MDL, j'arrive pas à le dire, vous savez, ceux qui font une mort cérébrale et puis au bout de quelques temps, au bout de quelques heures, ils reviennent et puis ils peuvent raconter tout ce qu'ils ont vu. Eh bien, ils disent toujours qu'ils sont reliés à leur corps par un fil d'argent. Et la Bible dit que quand le fil d'argent est coupé, c'est là qu'on ne peut plus revenir. Il existe ce fil d'argent qui vous relie à Dieu. puisque la vie est le lien le plus fort qui nous unit à Dieu. Pour devenir de véritables fils et filles de Dieu, nous devons travailler à diviniser notre vie, à nous approcher de plus en plus du sommet. Et c'est moins facile que de descendre quand on monte. Vous vous rappelez les enfants, quand on était dans les Grisons, il y avait une colline, alors vous grimpiez, vous grimpiez, vous grimpiez, c'était difficile. Puis après, vous vous laissiez rouler en bas. Ça, c'était rigolo de se laisser rouler dans la colline. Hein. Mais monter, c'était plus difficile. Hein. Ben, c'est pareil dans la vie, c'est plus difficile de monter que de descendre. C'est pourquoi les gens préfèrent descendre. Il y a moins d'efforts à faire. Eh bien, nous sommes appelés à faire des efforts. Des efforts. À être fidèles dans tout ce que Dieu nous demande. Alors dans les églises, vous trouverez de la religion, mais pas de la vie. La vie, elle est dans la vie. La vie, c'est Jésus. C'est en Jésus, c'est pas dans les églises. Et c'est à chacun de nous personnellement, c'est pas parce que vous faites partie de telle et telle église, pas du tout. C'est à nous personnellement d'entretenir une relation consciente avec Jésus, avec ses manifestations, les discerner dans la nature, les discerner dans notre vie, dans la vie des autres, voir ce qui est bien, voir ce qui est mal, voir ce qui est la vie, voir ce qui est la mort. Parce que quand on voit la vie, on voit la mort. Quand on voit Jésus, on voit aussi le voleur. Parce que tout va par deux tout le temps. Moi, j'ai choisi la vie. Et quand j'étudie la Bible, j'étudie la vie. Et quand je regarde les gens, quand je regarde les choses, j'étudie la vie. J'étudie la vie, j'étudie. Je ne sais pas faire de la psychologie, machin, à deux balles. Il y a des gens inspirants, puis il y en a d'autres, non. Il y a des choses belles, il y a des choses non, c'est pas, voilà. Quand j'enseigne la vie. C'est pratique. C'est pas une espèce de truc. Qu'est-ce qu'on a à faire de la huitième trompette à bout filtre? Ça va, une fois, on peut prêcher là-dessus une fois, c'est intéressant. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Des espèces de malades qui sont sans arrêt en train de rechercher les signes et les machins. On sait que Jésus revient. Bon voilà, il revient. Mais ta vie, est-ce qu'elle est en ordre? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alors j'enseigne la vie, sachant très bien que je ne vais pas trouver beaucoup d'amateurs, c'est sûr, c'est pas tellement à la mode. Hein. Je ne trouverai pas beaucoup d'amateurs pour étudier avec moi la vie. Allez, une chose flagrante, on parle de Jésus qui donne la vie et le voleur qui donne la mort. Regardez ce que Dieu m'a révélé au sujet du baptême pour les morts. La vie, Jésus, est allé pour enseigner aux morts. Il est allé leur prêcher l'évangile. C'est écrit dans 1 Pierre 3 et 1 Pierre 4, 6. Pourquoi il leur a enseigné? Pour qu'ils puissent sortir de leur captivité, c'est-à-dire du séjour des morts. Dans Éphésiens, c'est écrit. Et il a dit un jour à ses disciples, l'heure est venue, elle est déjà là, où les morts entendront ma voix et sortiront du séjour des morts, de leur tombe. Mais ils ne comprennent rien du tout, ils ne veulent pas comprendre. J'enseigne, mais ils ne veulent pas comprendre. Ça les embête. Les religieux ne veulent pas de cela. Ils n'aiment pas la vie. Ils préfèrent pleurer leur mort. Ils préfèrent les enterrer et ne pas savoir ce qui leur arrive. Voilà. On ne veut pas savoir, c'est tabou. Pourtant Jésus nous éclaire, mais ils ne veulent pas savoir. Parce qu'ils n'aiment pas la vie. Quand on aime la vie, on veut savoir ce qui se passe. Puisque Jésus dit qu'on ne meurt pas et qu'on continue à être conscient. Alors c'est quoi cette vie après la mort? Mais ils ne veulent pas savoir. Est-ce qu'il y a une chance encore pour être sauvé? Ah non. Moi, dans mon église, on ne m'enseigne pas ça. Ben, reste dans ton église. Tout ça parce qu'il coule dans le mauvais sens. Il coule d'en haut vers le bas. Et ça leur plaît, c'est tellement plus facile. Ah, c'est tellement ennuyeux de faire des baptêmes pour les morts. C'est tellement ennuyeux de faire des recherches. C'est tellement ennuyeux, n'est-ce pas, de faire des listes. Et puis de passer des heures à faire les baptêmes pour les morts. Ah, c'est tellement embêtant. C'est tellement plus facile, n'est-ce pas, d'aller jouer au foot ou de faire le marathon de Paris. C'est tellement plus facile. Hein? Ils n'aiment pas la vie, ces gens-là. Ils n'aiment pas ni la leur, ni celle de leur défunt. Je suis désolé, mais c'est comme ça. S'ils aimaient la vie de leur défunt, ils se diraient, eh, si Michel Jonton avait raison, et ils le feraient. Ils ne veulent même pas envisager que j'ai raison parce qu'ils n'aiment pas. Pourtant, c'est clair dans les Écritures, mais ils ne veulent pas. Ils ne croient pas que la vie, que Jésus est plus fort que la mort. Ils ne croient pas ça. Ils préfèrent leur croyance évangélique, qui n'est pas une bonne nouvelle. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, mais pour eux, leur croyance évangélique, ça n'est une bonne nouvelle que pour trois plaies, quatre tondus. Ah, la grande église d'Évreux qui contient 400 personnes. Mais c'est quoi 400 personnes sur les 60 millions de Français? C'est quoi ces églises de 300 personnes sur 400 millions de Français? C'est quoi? C'est trois plaies, quatre tondus, je suis désolé. Et encore, parmi ces 400, allez, je vais être généreux, les trois quarts sont sauvés, les autres, c'est des suiveurs, des fantômes, des gens qui vont dans les églises pour faire comme le voleur, pour prendre. Vous voyez, c'est tout faux, ils ont tout faux, ils coulent vers le bas. Tous, ils coulent vers le bas. Ah, Michel, tu es le seul à couler vers le haut? Non, heureusement, il n'y a pas que moi. Il y en a beaucoup qui coulent vers le haut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eux, en tout cas, il y en a beaucoup qui font tout à l'envers. Ils annulent la parole, ils annulent la vie au profit de leur tradition. Et puis, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, pourquoi est-ce que je m'obstine? Pourquoi? Michel, t'as l'obstiné. Pourquoi? Mais parce que ce qui est méprisé aujourd'hui sera apprécié demain. C'est une loi. C'est comme ça. Je suis juste un petit peu en avance. Mais vous allez voir, dans quelques années, peut-être je serai mort. Eh bien, je rigolerai dans le séjour d'Abraham là-haut. Je rigolerai en voyant tous ces gens qui me critiquent. Ils auront leurs fils et leurs filles qui font les baptêmes pour les morts. Et puis voilà. Et ça me fera rigoler. Ce qui est méprisé aujourd'hui sera apprécié demain. La science de la vie, c'est elle qui est vainqueur. C'est cette pierre dont parle Jésus, la pierre que les ouvriers ont rejetée et qui est devenue la pierre d'angle. Amen. Amen. Jésus, sois béni pour cette prédication. Aide ceux qui sont amoureux de la vie à travailler pour la vie, à travailler pour leur vie, mais aussi à travailler pour la vie de ceux qui les entourent dans la nature, pour ceux qui sont vivants comme pour ceux qui sont morts. Nous avons tant de choses à faire, tant de choses à faire. Il y a tant de gens à sauver, en dehors des églises. Tant pis pour ceux qui sont dans les églises, qui y restent, ils sont contents avec ça. Mais Seigneur, il y a tant de personnes à sauver, qui sont vivants, tant de personnes à faire sortir du séjour des morts, tant de gens qui peuvent bénéficier du ministère que nous avons. Et je te prie, mon Dieu, que tu aides ceux qui m'écoutent ce matin à comprendre et qui se mettent à faire avec sérieux, des recherches, au moins au sujet de leur propre généalogie familiale, et qu'ils nous envoient les listes de leur chers défunts, afin que nous nous fassions baptiser à leur place. Père, je te le demande dans le nom de Jésus, parce que la vie doit vaincre, et nous voulons être du côté de la vie, nous voulons être actifs du côté de la vie, pas simplement dire « j'aime la vie, je suis du côté de la vie », mais faire quelque chose, parce que celui qui ne fait pas, celui qui dit simplement « j'ai la foi », mais qui n'agit pas, eh bien il n'a pas vraiment la foi. Je te prie Seigneur pour que mes frères et sœurs qui écoutent ce message prennent conscience de cela et fassent ce qu'ils ont à faire d'une façon sérieuse, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça va? C'est bien. Eh bien, on va demander aux musiciens de s'approcher, on va chanter encore un peu.